L'objet de la réunion publique de cet après-midi, c'est de parler, de dialoguer, de converser avec ceux qui sont venus, les présents. Il y avait des élus, il y avait le maire de Bourganeuf, et de voir avec eux comment, à la fois, on a mis au point une méthode pour le choix de cette dénomination, et en même temps, les entendre, les écouter, et voir comment, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, ou d'un pays à l'autre, on est en capacité d'argumenter, de proposer.
Est-ce que vous pouvez nous présenter cette méthode qui va donner son nom à notre nouvelle grande région ?
Cette méthode, elle comprend trois éléments. D'abord, l'appel sur un site à voter pour la dénomination. Donc, on est avec les internautes. Cette méthode, elle dure depuis un an. Elle dure depuis mai 2015 et elle va aller jusqu'en mai 2016. Premier élément de la méthode. Deuxième élément de la méthode, bien les déplacements que nous sommes en train de faire en ce moment, il y en aura 12 pour rencontrer finalement la population qui désire venir et qui désire participer. Et puis aussi la réunion, cette fois elle se fait au conseil régional à Bordeaux, de voir comment un groupe qui est composé de 11 élus et de 11 experts choisis en fonction de leur profession, du rayonnement qu'ils ont et du regard qu'ils ont sur cette grande région, quels sont les thèmes qu'ils veulent développer et quelles forces de proposition ils représentent eux-mêmes.
Quels éléments sont pris en compte dans cette réflexion ? C'est quoi le fond de ce travail ?
Le fond de notre travail, c'est premièrement de faire en sorte que ce nom nouveau, quel qu'il soit, n'efface pas, n'évince pas d'autres appellations. Premier élément. Deuxième élément, de faire en sorte que cette appellation soit facilement reconnaissable sur le plan national et sur le plan européen. Éviter toute confusion qui pourrait être finalement géographique ou qui pourrait mettre l'accent sur une certaine forme de centralisation que l'on entend conserver. C'est notamment le cas de Hauts-de-France. Là. Bon, nous, on réfléchit par rapport à une forme d'autonomie et de regard par rapport aux compétences de cette grande région et comment on peut la présenter, la représenter à l'intérieur et à l'extérieur, en Europe et dans le monde, sachant que nous avons dans cette nouvelle grande région deux appellations et deux lieux qui ont déjà cette réputation quasiment mondiale, qui s'appellent Bordeaux et Cognac. Donc on est en quelque sorte face à une concurrence, mais on voit aussi comment ils agissent. Il ne s'agit pas de les imiter, il s'agit finalement de donner cette consistance-là à la région.
Fondamentalement, quelle importance ça a un nom pour une région ?
Ça a une importance par rapport à une identification qui pourra devenir un peu plus tard une identité. Ça a une importance aussi par rapport à ce qu'on appelle la visibilité à l'intérieur et à l'extérieur. Ça a aussi une importance par rapport à la communication elle-même, c'est-à-dire par rapport à la marque qu'elle peut représenter pour les entreprises, pour les institutions, pour les collectivités et pour débattre ensemble et pour avoir, non pas unanimement, mais avec un consensus certain, élagué et voir ensemble ce nom.
Avant de parler de l'avenir, un petit retour en arrière. Quand ont été créées les anciennes régions que nous connaissions ?
Ben, elles ont été créées dans les années 60 et elles ont été, avec la loi de décentralisation, je dirais, imbues par de compétences. Mais ces régions-là, elles n'avaient pas l'objectif du nouveau regroupement. C'était finalement dans une optique de décentralisation, mais pas très abouti. Nous sommes le pays le plus centralisé d'Europe. Nous n'allons pas cesser de l'être, mais nous avons appris à l'être un peu davantage. Et je crois que cette progression vers des régions plus grandes, plus étoffées, plus diverses, est sans doute forcément une bonne chose.
On cherche un nom pour la nouvelle grande région. C'est quoi l'origine des noms des anciennes régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin ?
C'était un découpage qui est très présent depuis le milieu du 19e siècle, depuis le Second Empire. On a réfléchi à des appellations et ces appellations, elles reprennent souvent les noms des anciennes provinces qui ont disparu avec les départements. Donc on a rebâti sur les anciennes provinces.
C'est quoi les points communs historiques, culturels, identitaires entre les trois régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ?
Il y en a. Il y a d'abord, si j'ose dire, la géologie, le relief et le climat. et l'hydrographie. Moi, j'attache un grand prix à l'hydrographie parce qu'en gros, toutes ces rivières, tous ces ruisseaux vont à l'océan. Et je me dis que là, on a la base à la fois de la répartition très ancienne du peuplement, de la localisation des villes et de l'institution des premiers échanges qui, quoi qu'on dise très souvent, étaient facteurs non pas d'isolement, mais je dirais de nécessité de se ravitailler. On n'a pas mentionné aujourd'hui un produit clé qui était très important et qui a alimenté le commerce et largement des revenus pour ceux qui le vendaient et le revendaient, c'était le sel.
Une grande région qui s'appellerait Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, ce ne serait pas satisfaisant ?
Ça ne serait pas forcément satisfaisant parce que ce serait trop long, j'imagine. Et surtout parce que déjà, on a adopté, si j'ose dire, cet acronyme qui correspond finalement à ALPC. Et je pense que par cette facilité que l'on a de tronquer les mots, peut-être un peu par paresse, on irait directement à ALPC. Et je ne suis pas sûre que ça dise grand-chose aux habitants de l'ALPC.
Est-ce que ces réunions publiques se passent dans une ambiance sereine ou est-ce qu'on assiste à une guerre de clochers identitaire entre les trois habitants des anciennes régions ?
Non, c'est pas une. Non, je pense que c'est très intéressant d'avoir ces discussions-là, ce dialogue. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment les uns les autres, à l'intérieur de ces débats, se persuadent. Ça, c'est important. Et moi, je suis toujours contente quand je vois quelqu'un qui, sortant une carte, qui, rappelant une anecdote ou un argument, fait valoir quelque chose à quelqu'un qui n'était pas d'accord au départ, et puis qui se trouve et qui se dit finalement, c'est pas si mal que ça. Donc, on est là pour ça.
C'est quoi les questions les plus fréquentes qu'on vous pose et est-ce que vous avez des exemples de propositions qui sont sorties de ces réunions publiques ?
Alors, les questions les plus fréquentes qu'on nous pose, c'est par rapport à l'inquiétude qu'il pourrait y avoir d'une quelconque annexion qui serait celle de l'Aquitaine et de Bordeaux, c'est clair, et encore plus de Bordeaux d'ailleurs, je crois que c'est très évident. Donc là, je crois que là, c'est facile pour argumenter cela et pour dire que plus la région sera forte, plus justement la relation avec Bordeaux sera différente. Je crois que c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des débats, il peut y avoir effectivement une proposition qui sort à partir d'une carte et qui fait que, aujourd'hui, on est revenu par rapport à ce monsieur qui est arrivé avec sa carte, qui a montré qu'il y avait une convergence entre l'Aquitanie romaine et l'Aquitania, etc. Moi, je trouve ça intéressant et c'est profitable.
Vous avez parlé de votre intérêt pour l'hydrographie. Les noms des départements ou des anciennes régions sont des références pour la plupart géographiques ou culturelles, comme la Creuse, la Somme, la Picardie ou encore la Bourgogne. Quelle importance ça, le rapport au réel pour le nom d'une région ?
Ah, ça a une importance d'abord pour les habitants parce qu'ils savent à quoi s'accrocher ou se raccrocher, ce qu'on n'aurait pas à LPC par exemple. Et puis je crois aussi pour les visiteurs, n'oubliez pas que l'attraction formidable de cette grande région pour les touristes. Alors les touristes qui ne manient pas forcément la langue française très très facilement, ils ont un nom qui leur parle, ils ont un nom qui signifie quelque chose, ils ont un nom qui leur sert de repère et ils ont la faculté, quand ils visitent, de se repérer.
La nouvelle région créée par la fusion des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie a choisi de se baptiser Hauts-de-France. Vous l'avez rapidement évoqué. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom ?
C'est un choix qui ne m'enthousiasme pas, mais je n'ai rien à dire sur ce choix-là. Alors pourquoi pas trop d'enthousiasme ? Parce que les Hauts-de-France, pour être un ancien professeur d'histoire et géographie, je disais toujours à mes élèves et à mes étudiants, il y a le nord, il y a le sud, etc. Il n'y a pas le haut et le bas, il n'y a pas à droite et à gauche. Bon, mais je comprends pourquoi effectivement on peut appeler cela Hauts-de-France. Et puis je trouve que Nord, Pas-de-Calais, Picardie, il y avait des résonances qui ne sont plus dans Hauts-de-France. Et puis, c'est toujours ce rattachement français dont on peut, parce que quand on connaît bien la région, on se dit, c'est en France, on sait que la Picardie est en France, par exemple. Donc, Hauts-de-France, voilà, ça me laisse un peu dubitative.
Un nouveau nom pour notre grande région, est-ce que ça signifie la disparition des anciens noms et des identités qui leur sont rattachées ?
Surtout pas, parce que ce nom-là sera une identification au départ. Les identités, elles viennent après, ou elles viennent beaucoup moins. Donc je crois que c'est différent. Identification n'est pas forcément identité.
Lors de cette réunion publique, il a beaucoup été question d'une appellation pour cette nouvelle grande région. Quelle importance ont les marques régionales dans cette réflexion ? Et est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans un travers, à savoir choisir un nom qui soit un objet de communication et pas forcément le marqueur d'une identité régionale ?
Ah oui, mais alors là, comme je viens de le rappeler tout de suite, une identité régionale est quelque chose qui met du temps à se fabriquer. Et je pense qu'à l'heure actuelle, je parlais du tourisme, on pourrait parler de tous bien des éléments économiques, notamment de l'agriculture, notamment de la forêt. On a besoin d'une référence qui parle. Et l'identité, elle viendra après, mais il restera des identités très fortes, pour ne citer que le Poitou, le Limousin, le Béarn, le Pays Basque, le Périgord. Voilà, on les garde.
Il y a une ambition pour que le nouveau nom de cette nouvelle grande région ait un rayonnement européen, voire mondial. Est-ce que c'est si important que ça ?
C'est très important. À l'heure qu'il est, c'est très important. Beaucoup plus important qu'à l'époque où on a commencé à donner des appellations aux régions. Et à l'heure actuelle, je crois que c'est primordial.
Le seul département de la Gironde a plus de conseillers régionaux que toute la région de Limousin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le nom soit choisi par les élus de l'ancienne région Aquitaine et que la grande région soit finalement baptisée Nouvelle-Aquitaine ou Grande-Aquitaine ?
C'est pour ça que nous travaillons en amont. Hein. Nous travaillons en amont, mais ceci dit, le nombre des élus dont vous parlez, cela correspond au poids démographique, au rôle de la démographie. Moi, le souhait qui est le mien, qui a toujours été le mien lorsque j'étais élue, c'était justement de faire en sorte que cette inégalité de la démographie ne soit pas une inégalité qui se ressente dans tout domaine. Voilà pourquoi nous venons et nous parlons.
Vous êtes originaire de la Dordogne. Est-ce que vous avez une préférence ou une idée pour ce nouveau nom ?
Ah non, c'est pas, je peux pas proposer de l'appeler Dordogne ou Périgord. Non, mais je sais le problème que cela représente parce que je suis d'un département, le 24, qui s'est appelé Dordogne à la Révolution, mais qui a rêvé un peu plus tard de s'appeler Périgord, ou bien Dordogne-Périgord, mais qui a gardé son appellation département de la Dordogne, mais qui, pour le tourisme, est Périgord. Donc, moi, je trouve que c'est une identité bicéphale et je souhaiterais simplement une identité avec un seul nom.
Alors, au final, qui choisira le nom de cette nouvelle grande région ? Parmi quelles propositions et comment ?
Eh bien, parmi la proposition ou les propositions que nous ferons dans le groupe, hein, et ce choix reviendra au vote des élus du Conseil régional lors de la plénière du 20 juin.
Avec un redécoupage des cantons, une fusion des communes, une fusion des communautés de communes, une fusion des régions, vous êtes historienne. Est-ce que ces réformes territoriales marquent un tournant historique dans le découpage administratif du territoire français ?
Vous savez, le terme de tournant, le tournant historique, il faut peut-être éviter. Ça marque un souci, effectivement, de répondre aux considérations, aux conjonctures du moment, mais il est très difficile d'échapper, c'est bien normal, à l'identité qui est une identité d'état civil, celle de la commune, qui était autrefois la paroisse. Et en France, nous sommes riches de toutes ces communes, et vous sentez combien justement ces regroupements des communes est difficile. Là, on est devant presque des millénaires, ou un bon millénaire d'ancrage. C'est compliqué, et ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, la seule réforme très rapide qui a été faite, celle des départements, elle a pris, et c'est plus compliqué sur un territoire un peu plus grand.